pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Alain est professeur de mathématiques et débute dans ce collège. L'exemple est rapporté par Bruno Robe dans la revue Sciences Humaines. Début septembre, 5 élèves de 3e technologique entrent en cours coiffés d'une casquette, chacun, passent devant lui en lui tournant le dos, s'assoient au fond de la classe, le regardent et se balancent sur leur chaise. Le professeur va fermer la porte de la salle sans savoir quoi faire. Il rappelle aux 3 élèves l'interdiction des casquettes en classe, de se balancer sur la chaise et réitère sa demande de sortir leur matériel. Aucune réaction. Il se déplace alors lentement vers le fond de la salle, puis il explique aux 5 élèves qu'il a bien perçu leur comportement comme une provocation dirigée contre lui, mais qu'il veut leur donner la possibilité de changer d'attitude et de se comporter comme les autres. L'un des 5 décide alors d'enlever sa casquette et la pose sur son sac. Un autre, Willy, demande « Et si on ne l'enlève pas, vous faites quoi ?» Alain parle tranquillement, il s'adresse aux élèves sur le mode de la fausse alternative. Soit ils obéissent en enlevant leur casquette, soit ils refusent d'obéir en risquant à terme l'exclusion du collège. Mais Alain sait qu'il ne les exclura pas. Il se déplace ensuite vers son bureau, puis commence son cours. Quelques instants plus tard, il observe que 3 élèves ont enlevé leur casquette et l'ont posée sur leur sac. Seul Willy résiste, Willy le regarde et lui adresse un refus net. « Moi, je ne l'enlèverai pas ». Puis il se lève, bouscule sa chaise avec colère et donne un grand coup de pied dans sa table. C'est là que commence notre émission aujourd'hui, au moment où le professeur est clairement défié par le ou les élèves. Où l'on verra heureusement que les méthodes ont évolué depuis les années 30.
Eh bien mon petit garçon, tu ne prends pas de notes ce matin ? À la bonne heure, c'est très bien, ça c'est très...
Oh mais c'est moi !
Ah, mon petit, je ne te dis que ça.
C'est pas moi, je vous dis merde.
Provocation, chahut, bazar et autres défis à l'autorité, comment ils font, comment ils le vivent, 4 histoires jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre, racontées par Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'était mon premier jour, ma première rentrée, ma première heure. J'arrivais assez tranquille, quoi, donc dans ce collège du 19e arrondissement. C'était la fin de la récréation, le moment de la sonnerie, des départs dans les escaliers pour monter dans les classes. Et du coup, réussir à les mettre en rang et à leur faire retrouver le calme alors qu'ils étaient dans la cour de récréation, c'était pas du tout évident. Et là, je sens derrière ma tête des petits coups, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Je me retourne à droite, un petit coup à gauche, je me retourne à gauche, un petit coup à droite. Par derrière, on commençait à me taqueter. Enfin bon, voilà, j'étais devenue une sorte de ballon dans la cour. Enfin bon, voilà, c'est hyper humiliant, quoi. Le taquet, c'est quelque chose de très humiliant. Alors, taqueter, c'est des espèces de petites claques très, très désagréables sur le bas du crâne. Voilà. Mais évidemment, comme ils étaient derrière moi, je ne pouvais pas les identifier. Et les élèves devant moi, hilares de ce qui se passait. Forcément, la tête va qu'à gauche, la tête va qu'à droite. On se retourne, il n'y a personne. Enfin, on a l'air complètement ridicule. On est un jouet, donc on est à leur merci. Et puis, ils sont très nombreux, on est tout seuls. Hein.
Sandrine est fille et petite fille de professeur. Mais l'autorité qu'on est censé incarner face à une classe pour pouvoir faire cours n'est pas héréditaire, elle ne s'apprend pas.
Après cette histoire de taquet, je prends sur moi, je l'ai fait entrer dans la classe.
En silence.
Et là, j'ai la surprise de constater que les élèves s'assoient naturellement les uns à côté des autres, enfin, des tous super potes. Moi, je pensais que les élèves, quand ils entraient en classe, ils faisaient silence, ils sortaient leurs affaires. Et non, pas du tout. Ils continuent de discuter, comme pendant la cour de récréation. Genre, ils parlent fort, ils se lèvent, ils se parlaient de leurs vacances, ils s'interpellaient à 3-4 mètres d'un bout à l'autre des tables, comme chez eux, et j'étais pas là en fait, ils ne me regardaient pas, j'avais pas l'air de les déranger du tout.
T'as oublié.
Je me dis, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça montait petit à petit, là, je me sentais mais une intruse au milieu d'eux. Là, j'ai commencé à paniquer, donc j'ai élevé la voix. Dites-moi, mais enfin, je suis là, voilà, rien, pas de réponse. Enfin, j'étais pas là, j'étais transparente, et ça avait même pas l'air d'être malveillant. Je n'étais pas là. Je pense que ça a été vraiment long. Peut-être pas 10 minutes, mais en tout cas, ça m'a paru très très long, ça c'est sûr. Je me souviens l'avoir essayé d'interpeller même individuellement les élèves. J'ai les souvenirs de mon regard qui essaye d'accrocher la fille à droite, là, qui me paraissait un peu sympa. Mais non, rien. Donc, voilà, c'est monté. Je me souviens quand même d'une espèce de panique, là, d'une angoisse, en me disant « Non, mais là, il va falloir que je fasse ma place, quoi. Il va falloir que je légitime ma présence ici, parce que sinon, je m'en vais et je laisse les clés du collège et je change de boulot. C'est eux ou moi, quoi. C'est-à-dire, il faut que j'existe, il faut qu'ils me voient, quoi. Il fallait que quelque chose se passe. » Et bah moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis montée sur la table. Et là, j'ai fait « Oh !» en hurlant. Réflexe absolument pas prémédité. C'était fuir ou monter sur la table. Je pense qu'on ne monte sur la table qu'une seule fois dans sa vie, quoi. Enfin, je pense, quoi. Quand ça arrive, ça n'arrive qu'une fois. Ah ben non, parce que c'est pas une technique. J'aurais seulement hurlé, mais je serais restée à terre. Je pense pas que ça aurait eu d'effet. Quand on hurle, quand on devient hystérique, quand on perd ses moyens, en général, les adolescents réagissent par le rire. Je pense qu'il m'aurait juste trouvé ridicule, alors que là, il y avait un acte de folie. Ça basculait. Une limite était franchie. Soit le professeur devenait fou, soit il allait se passer quelque chose, mais il fallait s'arrêter. Tous les élèves, quand même, ont levé la tête vers moi, et silence. J'ai eu le droit à une minute de silence, et le cours a pu avoir lieu, quoi. Ils ont été immobiles et silencieux, quoi. Le truc, waouh ! Là, ça pouvait commencer. L'histoire pouvait commencer, quoi.
Je reprends, c'est parti. Donc, on a dit, deux perceptions. Chut. Donc, pour la France et les colons du terrorisme à l'état pur, pour la majorité des Algériens, des indigènes, un acte de résistance de la lutte armée légitime, d'accord, qui s'inscrit dans un contexte mondial de décolonisation. Tout le monde a bien compris. Donc, on l'écrit. Chut. Non, commencez pas, stop. Arrête.
J'ai l'impression que je retiens que le côté positif. Finalement, d'avoir gardé ma classe, l'heure qui suivait, parce que j'aurais pu très bien ne pas revenir en cours ou m'arrêter, enfin comme certains s'arrêtent, etc. Moi, je trouve que c'était quand même difficile, mais je me suis dit, il faut que je tienne, il faut que je continue mon cours, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'interruption.
On va attendre le silence.
Farid enseigne dans un lycée professionnel. Le jour où je l'ai rencontré, il était en salle des profs, en réunion avec des collègues pour organiser le stage en entreprise de ses élèves. Il donnait l'impression d'être très concerné par son travail, de bien le connaître et de le faire à fond.
Ça se passait il y a 3 ans à peu près, dans une seconde logistique. Il y avait une évaluation ce jour-là, donc un contrôle. Et parmi les élèves, une élève qui était absentéiste, qui ce jour-là était présente. Donc, impossibilité pour cette jeune fille d'évaluer, puisqu'elle n'avait pas eu les cours depuis plusieurs semaines. Elle s'ennuyait forcément, donc elle sort le téléphone. Donc, je lui demande de le ranger. Elle le range, mais quelques secondes plus tard, elle le sort. Je demande à nouveau de le ranger, et elle le sort à nouveau. Et donc là, je lui demande de me donner son téléphone. C'est le règlement intérieur. Donc je lui prends des mains, et c'est peut-être là où j'ai eu tort, je sais rien. Je repars vers mon bureau, je pose le téléphone, et là, je la vois arriver, et je vois mes affaires, donc mes cours, ma trousse valser sur le sol. Et puis, subitement, une gifle. Alors là, je ne l'attendais pas. Quand on reçoit une gifle, c'est pas la douleur de la gifle, c'est moralement, mentalement que c'est difficile à supporter. Surtout devant une classe, c'est quand même assez humiliant. Et ça se passe très très vite dans la tête. Qu'est-ce que je fais? Je lui en remets une. Alors on se pose la question, quand on reçoit une gifle, forcément on a tendance à vouloir la remettre. En remettre une, que ce soit un élève ou quelqu'un dans la rue, c'est une réaction humaine quelque part. Donc là quand même on a une classe, donc on doit être plus fort encore. Ce qu'on essaie c'est de garder la face surtout. Parce que les élèves ils attendent aussi une réaction. Ou le prof il a le courage de lui en donner une. Ou le prof, il a le courage de pas réagir et de passer par les procédures normales. J'ai opté pour la deuxième solution. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout de suite pris mon téléphone portable pour appeler l'improviseur qui est arrivé très très rapidement. Je lui ai dit, madame le proviseur, j'ai eu un incident grave, j'ai été giflé dans ma salle. Elle voit la jeune fille, donc elle lui demande de la suivre. Elle baissait la tête, elle savait que c'était fini pour elle. D'ailleurs, on n'a pas fait de conseil de discipline puisqu'elle a fait une lettre de démission. J'ai jamais revu, j'ai tout son nom en tête, son visage en tête. J'y pense.
Alors donc, reprenons. Donc, on constate que... Donc, vous notez, la population pop avec un petit rond allongé. Donc, il y a 10 millions sur 10 millions d'habitants. On a 1 million d'Européens qui sont très majoritairement français, mais pas seulement. Hein, vous avez également des Italiens, des Espagnols. Voilà. Bon, mais il faut que t'arrêtes, c'est pas possible. Bon, est-ce que quelqu'un peut définir ce terme en quelques mots simples? Chut, s'il te plaît, Daouda, stop.
Ce moment-là, ça m'a plutôt rapproché avec la classe, parce que les rapports se sont améliorés finalement. Ils m'ont jamais nargué. Ils m'ont jamais fait référence à ça. Donc finalement, ils m'ont aidé puisqu'ils ont été très pudiques. Ça s'est bien terminé malgré tout. Et par contre, je suis allé porter plainte le lendemain ou le surlendemain. Et je l'ai dit aux élèves. Donc ils étaient un peu surpris. Ils m'ont dit, mais ah oui, ça vaut une plainte ce qui s'est passé. Je dis, oui, c'est des faits graves. Il y a des textes pour ça, etc. Ils s'imaginaient que ça allait rester à l'intérieur du lycée. Pour eux, c'est assez banal. Et 2 ans après, la grande déception, affaire classée sans suite. Voilà. Alors bien sûr, quand j'ai vu classée sans suite, je me suis dit, oh là là, j'aurais dû lui mettre une gifle, moi aussi, j'aurais dû lui rendre la gifle. Est-ce que j'ai bien fait de ne pas réagir? Quelque part, mon inaction n'a pas été récompensée. Voilà, c'est ça qui est terrible. Si j'avais mis une gifle, peut-être qu'il ne serait rien passé ni pour elle ni pour moi, mais au moins j'aurais donné la gifle. Mais après coup, je me dis, mais quel intérêt aussi? Alors, j'attendais pas à ce qu'elle soit condamnée. J'attendais qu'il y ait un cadre solennel, qu'elle se rende compte de ce qu'elle a fait et qu'on puisse témoigner, en parler aux élèves. Maintenant, je ne peux pas en parler. J'étais plus déçu, finalement, de la justice que de la jeune fille. La jeune fille, je me suis dit, à un moment donné, elle a, pour parler vulgairement, elle a pété les plombs. Ça arrive à tout le monde. La justice, elle ne pète pas les plombs.
France Culture, les pieds sur terre.
Un matin d'octobre, cours de récréation, les élèves sont en train de s'apprêter à entrer en classe. L'ambiance, c'est déjà chaude. Les jeunes lycéens sont très en colère déjà depuis une semaine. Ils manifestent en raison de l'expulsion d'un de leurs camarades sans papier. Il y a un mégaphone, il y a le joint qui circule, il y a plusieurs fumigènes qui ont pété dans la cour. Et puis, il faut quand même monter en classe. Donc, c'est ce qui va se passer. Je vais monter avec ma classe de seconde, que j'ai un mal fou à rassembler. Il y a deux, trois de ces jeunes qui, tout à coup, ont l'air de s'être transformés en gremlins affreux. Ils ont des têtes pas possibles, ils sont échevelés. Et je me dis qu'on ne va pas passer un très, très bon moment en classe. Il faut coûte que coûte qu'on fasse cours, hein, parce que je suis là pour ça, c'est ma mission, quoi.
Olena est une jeune femme blonde, elle porte des lunettes, elle est plutôt menue et elle enseigne le français dans un lycée professionnel qui est spécialisé dans les métiers de l'automobile et du coup ses classes sont principalement constituées de garçons et même de jeunes hommes d'une vingtaine d'années. Elle est seule face à eux et elle doit trouver sa place.
Donc j'ouvre cette salle de classe, le premier quart d'heure se passe plutôt pas trop mal. Et puis bah, il se trouve qu'il y a un moment, il faut noter un certain nombre de choses au tableau. Et à l'instant même où je me retourne pour noter les choses au tableau, je sens que je n'aurais pas dû le faire parce que je sens bien que le calme est factice. J'aurais dû dicter ou j'aurais dû rester face aux élèves. C'est une erreur de débutant. C'est juste une intuition profonde qu'on est en train de faire une connerie, vraiment. Et donc, je me retourne et je vois une petite boule jaune qui roule là. Voilà. Et qui est allumée. Et qui est en train de diffuser sa fumée. En l'espace de 30 secondes, on est dans le brouillard, quoi. J'ai de fumigène dans la classe. Alors, évidemment, c'est une fumée épaisse, hein, jaune. Ça pique à la gorge, ça pique aux yeux. Donc tout le monde commence à se lever, à vouloir ouvrir les portes, les fenêtres, toussant, hurlant, complètement surexcité. Ça crie dans tous les sens. Il y en a qui se lèvent, il y en a qui commencent à tousser comme s'ils étouffaient. Enfin, il y en a voilà, qui se déplacent, qui se dirigent vers la fenêtre, qui sont presque montés sur les tables. Je n'ai absolument pas eu peur. Je ne criais pas du tout parce qu'il ne fallait pas que je crie. Et donc là, évidemment, tous ceux qui s'étaient précipités vers la fenêtre, ils se sont dit, là, madame, ça pique. J'ai dit, ben tant pis. J'ai dit, ça me pique aussi, c'est pas grave. J'ai dit, on va rester dans cette atmosphère. On reste les fenêtres fermées. Je vous interdis d'ouvrir les fenêtres et les portes. Vous avez choisi cette ambiance du travail. Donc, nous allons travailler au milieu de cette odeur de soufre, de ce fumigène. On ne change rien. Vous asseyez. Et vous vous remettez au travail.
Alors, j'aimerais bien avoir le compte-rendu de ce que vous avez fait tout à l'heure. Océane ?
Oui ? L'enthousiasme d'Orgon se manifeste à travers sa manière d'être et de parler de Tartuffe. Quand il s'exprime à propos de Tartuffe, il est complètement ensorcelé et obnubilé par lui. Il est tellement sous son charme qu'il ne se rend pas compte de la vraie nature et des intentions hypocrites de Tartuffe. Orgon est inconsciemment amoureux de Tartuffe.
Ses soupirs le cours va être très très difficile à mener, hein, parce que j'ai encore une heure à tenir quand même, hein, dans le fumigène, parce que c'est des cycles de 2 heures. Il faut tenir bon sur la longueur, et ça c'est ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'ils essayent tout à ce moment-là, ils sont dans le sentiment, dans la menace déguisée... Oui, si vous dites que c'est moi, va falloir que vous en apportiez la preuve. Je vous préviens, si vous dites que c'est moi, je vais pas me laisser faire. Il y a ceux qui vont jouer sur l'émotion. Non mais madame, si vous appelez ma mère, ça va trop lui faire de la peine, elle est malade en ce moment. Ceux qui sont carrément dans la séduction, madame, venez voir, moi j'ai quand même fait mon travail. Voilà. J'étais super en colère, j'avais envie de les étriper, mais je n'ai absolument pas eu peur. Donc je pense que ça se voit, il y avait quelque chose dans mon regard qui s'imposait d'autorité et ils n'avaient pas encore vu ce regard. Donc je pense que c'est ce regard-là, cette façon que j'ai eue de les fixer les uns après les autres en leur disant que non, vous ne m'aurez pas, c'est moi qui vous aurai, c'est moi qui imposerai la loi dans la classe.
Bon, c'est bien. Les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est bien sur le plan du vocabulaire et sur le plan des arguments. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit vraiment convaincant ? Voilà, il manque des exemples.
Au terme de cette séance, plus jamais leur rapport à moi ne sera le même.
Tartuffe est un saint.
C'est pas un cours qui a servi à travailler, mais c'est vraiment un cours qui a servi a posé mon autorité et qui a permis que, après, avec eux, j'ai extrêmement bien travaillé pendant des semaines et des semaines. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est dans un rapport extrêmement sympathique. Ah ben, ils ont dit, madame, c'est vous qui nous reprenez l'année prochaine? Je dis, bah oui, on verra. Elle me dit, oh, si, madame, reprenez-nous. On veut que ce soit vous notre propre principal l'année prochaine. Je sais pas pourquoi je signe, mais j'ai dit que j'allais re-signer.
Oh, mais moi, Doc, qu'est-ce qu'il était difficile. C'était vraiment impressionnant.
Laurent est professeur de mathématiques depuis une vingtaine d'années. Comme beaucoup de monde, il a commencé sa carrière dans des zones d'éducation prioritaire du nord de la banlieue parisienne. Et aujourd'hui, il travaille dans un lycée à Paris.
Ouais, ça c'était un élève difficile. Et l'année suivante, il est venu, d'ailleurs je l'ai mis là, il est venu me présenter des excuses pour son comportement. Il a même eu son bac. Extraordinaire. Je ne les ai pas tous relus.
Quand je suis arrivée chez lui, il avait préparé sur la table du salon tout un tas de feuilles, ses archives personnelles. En fait, il a gardé de toutes ses années de professorat, à l'abri dans un disque dur, tous les rapports disciplinaires qu'il a dû rédiger. Parce que quand on est professeur, si il arrive quelque chose de grave dans la classe, on est censé écrire un rapport. Et du coup, quand on a des classes difficiles, on passe beaucoup de temps à écrire.
C'est vrai que les relire, c'est reparcourir un peu le chemin que j'ai suivi. Je me sens proche même de ce que je pouvais écrire il y a une vingtaine d'années. Le fait que je passe du temps à élaborer des rapports, à les mettre en forme, y apportant un soin quand même particulier, essayant d'être le plus précis possible, ça, c'était ma manière à moi de prendre du recul sur la situation, d'analyser, de la décortiquer, de repréciser ma position à l'égard de l'élève et à ma classe. Il y a un certain nombre de chahuts, de transgressions à l'intérieur des classes qui s'installent sur un mode pérenne, simplement parce que les élèves s'appuie sur la honte que le professeur a de révéler officiellement ce qui se passe dans sa classe. Que ça s'ébruite, qu'on sache que ça a pu se passer lors de son cours, etc. Mais cela dit, moi, j'en ai pas honte et je considère qu'on doit pouvoir dire ce genre de choses. Voilà. Surtout, pas développer de connivence avec les élèves qui avaient fait ça, histoire de dire, oui, c'est notre secret partagé, je vous punis pas, mais je dis rien. Non, surtout pas entrer dans cette logique. Donc voici un rapport écrit il y a près de 15 ans. Un rapport concernant les élèves Kamel et Najim. Le 4 juin 2002 à 16h30 au 4e étage du bâtiment S, je suis sorti de ma salle à la fin du cours en accompagnant les élèves Fadlon et Najim, tout en parlant avec eux de leur participation au rugby. Soudain, Najim exprima sous forme d'une plaisanterie une idée absurde. On va plaquer le prof. Il s'approcha de moi cherchant à m'attraper la jambe pour me faire tomber. Je me reculais et m'adossais contre le mur en leur demandant de bien vouloir cesser. C'est à ce moment qu'arriva Kamel, qui, entendant et comprenant ce qui se passait, surenchérit immédiatement en se précipitant sur moi, m'attrapant la cheville pour me contraindre à avancer. C'est ainsi qu'ils ont réussi à me faire tomber au sol. Je suis resté mesuré dans mon effort pour me dégager de crainte qu'en me débattant, un coup puisse être porté. Étant à terre, l'élève Kamel me tenait toujours. Il m'a tiré sur le sol sur plus d'un mètre. Je ne pouvais me dégager avec mon autre jambe sans risquer de le frapper. Il était particulièrement humiliant pour moi de me retrouver le jouet de grands gamins ne voyant là qu'une plaisanterie. J'ai bien compris qu'à aucun moment ces élèves n'ont réalisé la portée de cette action et qu'il est inadmissible de se jouer des personnes de cette façon. Je voudrais qu'une leçon très ferme leur soit adressée. J'ajoute que j'ai entendu l'élève Kamel se vanter immédiatement d'avoir fait tomber le professeur et qu'il est même allé le dire à son professeur de français à l'heure suivante. Or je ne tiens pas à ce que les élèves dont j'aurai la charge l'année prochaine s'imaginent que de tels agissements à mon égard puissent être possibles. Je vous remercie de bien vouloir recevoir ces élèves afin de leur adresser la mise en garde et la remontrance qu'il convient. Bon, bah là, c'est un rapport particulier parce que il a presque joué un peu contre moi. Mais regardez, là, vous n'êtes même pas capable de tenir vos élèves, vous êtes fait plaquer par eux ou une remarque de ce genre. Sur le coup, on m'a rien dit, mais à un moment donné, oui, on me l'a fait remarquer, oui. Je crois que le pire, c'est l'idée d'avoir été traîné au sol. Ça, c'est vraiment... C'est le pire, puisque On a beau dire que, bon, j'ai conservé ma dignité, j'ai pas porté de coups, je suis resté intègre, mais il n'en reste pas moins qu'ils m'ont fait tomber. Pour résumer grossièrement, c'est un peu la honte pour moi, mais justement, il fallait dire quelque chose.
Monsieur, moi aussi, j'ai pas de
vie. Vous commentez ça plus tard. Je reprends, c'est parti.
Alléluia.
Alors, commencez pas, stop.
So you are Svetlana and I'm just a rhymer. Swimming in the water trying to dodge the piranha and fly to Bahamas. Pretty little mama, chitty in the spot where you at Pearl.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, provocation, chahut, bazar et autres défis à l'autorité. Un reportage de Delphine Saltel, réalisé par Benjamin Hu et Emmanuel Geoffroy avec un coup de main de Philippe Baudouin pour la rediffusion, car c'était une émission qui a été déjà diffusée une fois le 11 septembre 2014. Merci à Oléna, à Sandrine, à Farida, à Laurent, à Pierre-Louis Salle, à Prune Hébert, à Nelly Bourrier, à Romain Charbon, à Madame Lebovici, à Monsieur Galietti et à Monsieur Bouvet. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter. S'il vous plaît, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous pensez de notre travail, pour le partager s'il vous a intéressé. Shows and I'm